Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce 4 décembre 2025, c'est la journée de la guignolée des médias, 25e édition cette année, ça va vite. Alors, si vous pouvez donner, donnez, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont faim. Et il faut être sensible à ceux et celles qui sont dans des situations plus précaires que la nôtre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Comment allez-vous?
Je vais pas mal, pas mal. Pas mal elle-même?
Pas mal. Elle va pas mal, pas mal. Elle appréhende le froid. On annonce du froid à partir de cet après-midi jusqu'à demain. Il me semble que tout arrive vite cette année, la neige qui tombe, oui, en novembre, plus vite que prévu au début de novembre. Et puis là, c'est le froid qui s'amène avant la saison hivernale, parce que l'hiver n'est pas arrivé, même si ça s'en vient le 21 décembre. Est-ce que c'est le 21 décembre? Parce que il me semble que ça peut varier. Je regarde dans mon agenda, Covadis. qui est très fiable. Oui, le solstice d'hiver, 21 décembre cette année. Monique Kirouac est au bout du fil. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène.
Alors, votre sujet m'intrigue complètement.
C'est vrai?
Ah oui, oui, j'ai bien hâte de vous entendre. Je ne comprends pas exactement là, de quoi il s'agit.
Ben, en fait, c'est un chercheur de l'Université de la Sorbonne. C'est un peu étonnant, mais vous allez voir dans l'article que je vais lire, il s'intéresse à d'autres communautés, je dirais, entre guillemets, que le Québec. Alors, il va suivre l'accent de Bernard de Rome.
Le lecteur de nouvelles,
Hélène.
Vous parlez du lecteur de nouvelles?
Oui, c'est ça, du lecteur de nouvelles pendant 40 ans. Alors, il y a une démocratisation d'une certaine façon dans la façon de prononcer certaines syllabes de Bernard de Rome qui correspond aussi à l'évolution, je dirais, de notre appartenance ou de notre fierté de notre langue qui a ses particularités. C'est ce que je vais vous raconter. Et ça nous change de la santé. Hein?
Bien oui, pourquoi pas. Et puis Bernard de Rome, mais on va peut-être avoir l'occasion de l'entendre, lui qui avait une si belle voix. Si la tendance
oui,
se maintient...
Ben, vous savez, Hélène, on parlait toujours du parler radio-canadien, là.
Oui, oui,
ça
oui.
Ça fait partie un petit peu de cet article-là, comment ça a évolué.
Oui, on ne parlait pas du parler, on parlait du perler.
Ah oui, exactement.
Merci Monique, à plus tard. On aura aussi la chronique Parasport avec Dominique Tremblay, qui a plein de choses à nous raconter, notamment Altergo, l'organisme qui organise le défi sportif, a remis ses prix annuels. Et François Larochelle, ancien diplomate canadien, a préparé pour nous un bilan de l'année 2025. Tout cela avec de la belle musique, quelquefois des chants de Noël et d'autres fois pas. Mais on commence avec un grand classique, c'est Noël Nouvelet.
Les bottes Jean crient.
Isabelle Nouvellet, une version chantée par Belle Grand-Fille.
Très beau, très apaisant, ça fait du bien. À la une de la presse plus aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est des ados qu'on va voler. Des commerces situés à proximité d'écoles secondaires interdisent l'accès aux jeunes ou filtrent ceux qui veulent y entrer, souvent en groupe. Une pratique discriminatoire, signale des experts des droits de la personne. Marie-Ève Fournier signe une chronique, encore une hausse de 1 000 du panier d'épicerie. Je vais vous lire cette chronique qui concerne tout le monde. Coûte que coûte, il faut bien se nourrir. Malheureusement, le prix des aliments est devenu une source de préoccupation majeure pour beaucoup de monde. Et ce n'est pas en 2026 que le stress s'estompera. La famille type paiera près de 1 000 supplémentaires, prédit le toujours très attendu rapport sur les prix alimentaires. En tout, la facture de cette famille composée de 2 adultes et de 2 enfants grimpera à 17 572 $. Ce montant comprend les achats à l'épicerie et les visites au restaurant. Il ne s'agit pas d'une hausse record. On a vu pire à quelques reprises depuis 2020, mais elle est plus marquée qu'au cours des 2 dernières années. Surtout, l'effet cumulatif pèse de plus en plus lourd. On a toutes sortes de graphiques. Cette absence de répit n'est assurément pas une bonne nouvelle pour les 20 % de Québécois en situation d'insécurité alimentaire, une proportion en hausse constante ces dernières années. Chez les locataires, la proportion atteint 31 % a dévoilé l'Observatoire québécois des inégalités cette semaine. Le coût de l'alimentation grimpera, prédit-on, de 4 à 6 % dans l'ensemble du pays. Mais il faut s'attendre à ce que ce soit plus élevé au Québec. Le rapport ne fournit cependant pas de prédictions chiffrées. C'est un phénomène de rattrapage, explique le professeur à l'Université Dalhousie et auteur principal du document Sylvain Charlebois. Depuis le premier rapport publié il y a 16 ans, dès qu'une province est en dessous de la moyenne une année, elle se retrouve au-dessus de la moyenne l'année suivante, raconte l'expert de l'industrie agroalimentaire. En 2025, les Québécois ont été plus épargnés que d'autres, notamment grâce à la multiplication des enseignes à bas prix. Des métros ont été convertis en Super C et les maxis sont plus nombreux. Or, les transformations seront moins nombreuses au cours de la prochaine année, ce qui devrait avoir un effet stabilisateur sur les dépenses. Dans les restaurants, il est plus difficile d'échapper aux hausses de prix. La main-d'œuvre, les aliments, les services publics, tout coûte plus cher. C'est sans compter l'effet inattendu du congé de TPS qui fut en vigueur pendant 2 mois, de la mi-décembre à la mi-février. Les restaurants ont augmenté leurs prix. Ils sont allés progressivement se chercher plus de marge de profit, affirme Sylvain Charlebois, qui prédit un certain nombre de fermetures. Déjà, 75 % des Canadiens mangent moins souvent au restaurant à cause des prix, selon un rapport de Restaurants Canada publié en septembre. Cette proportion passe à 81 % chez les 18 à 34 ans. La viande connaîtra une croissance des prix particulièrement élevée encore une fois. Le prix du bœuf est assez alarmant, selon le professeur Charlebois. Il a bondi de 25 % depuis 2 ans et rien ne sera réglé avant 2027, puisque les animaux ont besoin de temps pour naître et grandir. On avait vécu une flambée des prix similaire en 2014, mais au moins, à l'époque, les producteurs ont investi dans leurs troupeaux, ce qui a permis de calmer les prix, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Cela dénoterait à la fois un manque de confiance dans l'avenir et le vieillissement de la population d'agriculteurs. Beaucoup préfèrent la retraite à la croissance en raison de leur âge. Résultat, on se retrouve avec du bœuf haché importé, parfois d'aussi loin que la Nouvelle-Zélande, dans nos supermarchés qui veulent offrir des prix plus alléchants aux clients. Ouvrez bien les yeux car les emballages ne sont pas toujours clairs. Heureusement, le prix du poulet n'a grimpé que de 6 % dans la même période de 2 ans. Des poulets entiers ont même été annoncés dans les dernières semaines au même prix qu'en 2021. Dans un contexte de grippe aviaire, il faut s'en réjouir. Ils s'en trouvent toujours pour accuser les supermarchés de vol, sans analyser les chiffres ni connaître la réalité d'une industrie. Au Canada, on doit composer avec 1 $ faible par rapport à la devise américaine et à l'euro, ce qui se répercute sur le prix des aliments importés. On subit aussi de plein fouet les changements climatiques au même titre que les compagnies d'assurance. Les prix du café, du chocolat et de l'huile d'olive ont fait les manchettes. Des événements ponctuels, forte chaleur, pluie intense poussent aussi les prix de fruits et légumes à la hausse pendant quelques semaines. On l'a vu avec le chou-fleur, le céleri, les cerises, et c'est loin d'être terminé. Ces événements sont appelés à se multiplier et à faire grimper les prix de manière significative. Il faudra s'y faire. Le problème avec cette forte volatilité des prix est qu'elle pousse les clients vers le centre des magasins, là où se trouvent les aliments transformés, moins chers et surtout moins sains, analyse Sylvain Charlebois. C'est une mauvaise nouvelle pour notre régime de santé publique à laquelle on s'attarde peu. Près de 25 % des Canadiens disent qu'ils mangeraient plus santé si leur budget le leur permettait. Au fil des ans, le rapport sur les prix alimentaires est d'une précision assez remarquable. On aimerait que le collectif de chercheurs qui le rédige soit à côté de la plaque pour 2026 et que le coût de l'alimentation ne soit plus un enjeu pour tant de familles, mais il ne faut pas trop compter là-dessus. C'est la chronique de Marie-Ève Fournier publiée dans la Presse Plus d'aujourd'hui. Et si on se tourne vers le Journal de Montréal, floué de près de 400 000 $, un retraité de Shawinigan croyait être en relation avec Lara Fabian. Ciblé par des escrocs en ligne, Gérald Trahan était convaincu que la chanteuse populaire s'apprêtait à divorcer de son mari pour lui. Triste histoire, il a tout vidé ses comptes en banque, il a tout perdu, il a dû vendre sa maison. C'est vraiment révoltant. De plus en plus d'arnaqueurs usurpent désormais le nom de célébrités sur le web afin de soutirer d'importantes sommes d'argent à leurs victimes. L'un des cas les plus célèbres est celui d'une Française qui est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt, une arnaque qui lui a coûté plus $1 million il y a 2 ans. Dans une entrevue accordée à l'émission JE, Gérald Trahan affirme avoir perdu près de 400 000 $ dans cette arnaque, lui qui était déjà un fervent admirateur de Lara Fabian, mais là, il pensait qu'il était en relation avec la vraie. Il est tombé amoureux fou. Et Lara Fabian s'est exprimée là-dessus en disant qu'elle était complètement désolée et trouvait ça extrêmement triste pour ce monsieur Trahan. Et puis, je termine avec le devoir d'aujourd'hui. Encore une autre triste nouvelle, une aide au logement aux demandeurs d'asile serait retirée. Québec ne s'en cache pas. Il craint que les services qui leur sont offerts ne rendent la province trop attractive. C'est dans le devoir d'aujourd'hui. Pause musicale et puis tout de suite après, c'est une chronique de Julien Caillouette. Ben oui, je ne l'avais pas présentée tantôt. On devait présenter cette chronique en toute franchise. Elle a été enregistrée hier. On a manqué de temps, alors elle est toujours d'actualité. On vous la présente tout de suite après cette chanson de Jérémy Kissling.
N'attendez rien de moi, je ne sais pas quoi faire. Si je parle tout bas, c'est que je voudrais me taire. Mes mots ne marchent pas, mes gestes ne touchent pas. Je souffle du vide dans l'air, je suis de l'antimatière. Je suis hors de portée, la lune c'est ma terre. J'ai la nuit sous mes pieds, mon cœur est un cratère. Je m'applique à moitié, je ne sais pas m'exprimer. Je me complique l'univers et je m'imprime à l'envers. J'ai ruiné tous mes voeux en attendant d'y croire. Si je baisse les yeux, c'est que je crains le miroir. Aide-moi si tu veux, plonge dans mon regard. Repêche le coin de bleu qui se noie dans le noir. N'attendez rien de moi. Je parle tout bas, c'est que je voudrais me taire. Mes mots ne marchent pas, mes gestes ne touchent pas. faire. Si je parle tout bas, c'est que je voudrais me taire. Mes mots ne marchent pas, mes gestes ne touchent pas. Je souffle du vide dans l'air, je suis de l'antimatière.
Chronique des nouvelles francophones du Canada en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
De nouveaux pouvoirs de sanctions pécuniaires pour le commissaire aux langues officielles.
On parle de sanctions monétaires dans certains cas. En fait, c'est que le monde, l'univers des langues officielles au Canada, et en particulier la francophonie canadienne, attend avec impatience les trois nouveaux règlements qui vont permettre de mettre en œuvre plusieurs nouvelles sections de la loi sur les langues officielles modifiées. Je vous rappelle que cette loi-là a été votée en juin 2023, donc ça fait plus de deux ans et demi qu'on attend ces nouveaux règlements-là. Fait que la semaine dernière, et d'ailleurs c'était à peu près deux jours avant sa démission, là, le ministre de l'Identité canadienne et des langues officielles, Stephen Guilbeault, a déposé le premier règlement. C'est celui qui concerne un des nouveaux pouvoirs du commissaire aux langues officielles, qui est de remettre des amendes à des entreprises de transport qui relèvent du fédéral. Dans ce cas-ci, on parle de Air Canada, Marine Atlantic, VIA et des autorités aéroportuaires, là, c'est-à-dire les administrations des aéroports. Les amendes peuvent être assez salées. Ça peut aller de 5 000 à 50 000 $. Ça dépend du règlement, du type de faute qui a été commise par rapport aux langues officielles. Ça s'applique surtout sur des communications ou des services qui auraient dû être rendus en français ou demandés puis qui ne l'ont pas été. Fait que le règlement doit quand même suivre le processus normal au Parlement. Il va falloir attendre, il n'est pas en vigueur tout de suite. Le commissaire nous dit qu'il l'observe, qu'il l'inspecte pour être sûr que ça répond à toutes ses attentes.
C'est la Journée internationale des personnes handicapées et vous avez une nouvelle sur l'accessibilité tirée du courrier de la Nouvelle-Écosse, Julien.
Oui, parce qu'on réfléchit à ça présentement dans la ville de Clare, qui est située sur le bord de la baie de Fundy, sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Écosse. Donc, cette municipalité-là tente d'adapter ses installations pour les personnes à mobilité réduite. Puis, en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, on s'est fixé l'objectif de devenir une province sans obstacles d'ici 2030. Donc, toutes les municipalités doivent y participer. Donc là, il y a environ 7 600 habitants, puis ils révisent eux aussi en ce moment leur plan d'accessibilité. Il y a donc une série de journées portes ouvertes qui ont été organisées, puis les résidents peuvent donner leur avis et proposer des changements. La plus grande difficulté qui est rapportée par les résidents de Clare, c'est le transport adapté. Il y a une compagnie qui assure ce service-là, c'est pas parfait, évidemment, comme n'importe quoi, et c'est pas toujours disponible. Donc, la plus grande partie des recommandations tournait autour de ça. Clare travaille quand même depuis plusieurs années sur son plan d'amélioration, puis l'accessibilité des résidents a eu des changements tangibles, du moins à toutes les résidents. Comme on a ajouté des trottoirs, puis il y a beaucoup plus de portes automatiques sur les édifices municipaux. Puis il y a une dame qui participait aux consultations à qui le courrier a parlé, qui elle dit, quand elle a commencé à s'intéresser à ces aménagements-là, c'est pour aider les autres, mais maintenant qu'elle vieillit, elle réalise qu'elle va pouvoir en profiter elle aussi.
Une association d'aide pour les jeunes afro-descendants à Toronto grandit, c'est dans l'Express.
Oui, il s'agit de le nom de l'organisme, c'est Point Ancrage Jeunesse. Ça existe quand même depuis quelques années, mais ils ont connu beaucoup d'expansion au cours de la dernière année. Là, leur budget a augmenté. Il y a plus de services et de programmes qui sont offerts. Et ils viennent de se lancer dans l'élaboration d'un véritable plan stratégique pour bien desservir leur communauté. Le groupe a été créé parce que les jeunes noirs francophones en Ontario et à Toronto ont des enjeux qui sont différents des autres jeunes et des autres francophones, jeunes ou pas jeunes. Selon la présidente Edwidge Gum, près de 40 % des jeunes disent faire face à des obstacles systémiques à l'emploi ou à la reconnaissance de leurs compétences à Toronto. Aussi, plus de 1 sur 3 disent avoir des difficultés d'accès à des services culturellement adaptés et en français. Reste là-dedans aussi le racisme, les enjeux de santé mentale et le sentiment d'isolement qui reste des défis majeurs pour leur bien-être. Les questions au cœur de la mission de Point Ancrage Jeunesse, c'est aussi de multiplier les partenariats avec les établissements scolaires pour donner plus de chances de développement professionnel à des jeunes. On parle de stages, entre autres, au Collège Boréal.
Par ailleurs, des choix politiques du gouvernement de l'Ontario qui inquiètent les francophones.
Il y a une députée libérale de l'Ontario, de l'Est ontarien, Lucille Collard, qui avait déposé un projet de loi à Queen's Park qui visait à protéger les librairies franco-ontariennes qui restent. Il y en reste à peu près 3 dans la province. L'objectif, c'était de créer un système d'accréditation pour ces librairies-là qui forcerait un peu les écoles et les établissements scolaires francophones à s'approvisionner en livres et en manuels chez elles. C'est une des raisons pourquoi les librairies francophones survivent pas en Ontario. À Sudbury, par exemple, on a eu une librairie jusqu'à tout récemment et il y en a eu d'autres avant qui ouvrent, qui fonctionnent à bout de temps puis qui finissent par devoir fermer parce qu'ils n'ont pas assez de volume de vente. Et ce qu'on dit, c'est que ça prend à peu près 50 % des ventes doivent venir du milieu scolaire. Sinon, on ne peut pas faire assez d'argent pour rester ouvert. Donc, c'est sans être forcé, ces petites librairies-là font affaire à une concurrence, sont face à une concurrence un peu inégale par rapport aux grands fournisseurs. Le Parti conservateur de l'Ontario a voté contre le projet de loi. La députée franco-ontarienne évidemment très déçue de constater qu'ils ne souhaitent pas protéger la culture et la langue française plus que ça en Ontario et surtout qu'ils n'ont pas fourni d'explication pourquoi ils ont voté contre.
On comprend sa déception. L'Alberta perd son élan dans les énergies renouvelables, c'est dans le franco.
Ben oui, au lendemain de l'annonce de l'entente entre l'Alberta et l'Ottawa pour l'éventuelle construction d'un nouvel oléoduc. Le Franco avait produit un dossier dans son journal pour rappeler que l'Alberta, qui était une puissance énergétique, mais détenait aussi jusqu'à tout récemment le titre de championne de la production d'énergie électrique renouvelable. En 2023, 92 % des projets d'énergie propre au pays étaient construits en Alberta. C'est quand même beaucoup. Ça a changé lorsque le gouvernement de Daniel Smith a instauré un moratoire sur la production d'énergie, d'électricité propre là, en début 2024, je crois. Depuis, les investissements ont chuté beaucoup dans la province. Puis, par exemple, il y a une entreprise qui est passée de l'installation de plus de 1500 MW par année là, en énergie propre à seulement 6 MW en 2025. Donc, il y a de nombreux projets qui ont été annulés. Le changement de direction entraîne des pertes financières pour les municipalités parce qu'ils tiraient des revenus de ces installations et de ces projets-là. Ça pourrait aussi mettre donc en danger certains services municipaux si on perd des revenus de taxes comme ça. Par contre, la réglementation en Alberta reste favorable aux micro-installations, donc les installations très petites, là, je crois de moins de 1 MW, comme par exemple les panneaux solaires sur les toits des maisons ou sur les édifices publics. Dans ce domaine-là, il y a de nombreux projets qui continuent d'avancer, puis certaines municipalités sont à l'avant-garde.
Et finalement, initiative les enfants inuits d'abord.
Il y a des organismes qui s'inquiètent au Nunavut parce que le financement de l'initiative Les enfants inuits d'abord n'est pas garanti. Cette initiative-là permet d'offrir des bons aux familles pour se procurer de la nourriture à des prix raisonnables, ce qui évite la malnutrition chez les enfants parce que la nourriture dans les territoires canadiens, ça coûte cher. La source de leur inquiétude vient du budget qui a été déposé par le gouvernement fédéral il y a quelques semaines. parce que dedans, on garantit seulement le financement du programme jusqu'en mars 2026. Il n'y a rien. On ne parle pas de coupure ou de continuation après cette date-là. Fait que les organismes qui gèrent l'initiative au Nunavut ne savent pas trop à quoi s'attendre au-delà de cette date-là. Il y a une intervenante de l'Association des organismes à but non lucratif du Nunavut qui qualifie la situation de franchement scandaleuse parce que selon elle, ça fait des années que les organismes du territoire expliquent au gouvernement fédéral que l'insécurité alimentaire augmente chez eux. Pourtant, on ne semble pas les croire ou du moins pas s'en soucier. D'ailleurs, le Nunavut rapporte que le 17 septembre cette année, le Centre alimentaire du Kalouit a enregistré une demande record de 639 repas pour un seul dîner. Elle représente environ 8 % de la population de la ville. De plus, il y a des incertitudes donc liées à ce financement-là. Ça crée de l'instabilité chez les employés, sans savoir si on va avoir un emploi après le mois de mars. On peut se mettre à chercher un autre emploi, puis ben, ça peut créer des problèmes si jamais les programmes continuent. Donc, ça va être à surveiller.
Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Julien. À mercredi prochain.
Avec plaisir.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Je joli retour en arrière de French Bay.
Mais de ce temps-ci, je trouve qu'elle est d'actualité, cette chanson. Merci, merci Mathieu. Monique, l'évolution de l'accent de Bernard Dorum raconte l'affirmation du français québécois. Quel titre intéressant, et je suis certaine que vous allez nous garder captifs jusqu'à la toute fin. C'est un article que vous avez trouvé dans La Conversation.
Oui, un lieu de prédilection pour découvrir les recherches qui sont faites par des professeurs et chercheurs qui viennent du monde entier, en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce site qui agglomère, finalement, qui est un agrégateur de toutes ces universités qui en sont membres et des personnes qui œuvrent à l'intérieur de ces universités. Alors, pendant près de 40 ans, hein, Bernard Dorum a incarné la voix du téléjournal et accompagner les bouleversements du Québec moderne. Alors derrière cette constance, sa façon de parler a pourtant changé, révélant à sa manière l'évolution linguistique et identitaire du Québec. Dans une étude donc sur le français parlé dans les médias audiovisuels québécois, le professeur Marc Chalier s'est penché sur un détail de prononciation en apparence négligeable: la façon dont Bernard Dorum prononce les sons T et D devant des voyelles, comme I ou U. Il est bien connu qu'en français québécois, dans ce type de contexte phonétique, ces consonnes ont tendance à se transformer. Alors, tu dînes sera prononcé tu dînes. Et ce phénomène, Hélène, ça s'appelle la frication. Et c'est caractéristique du français québécois. En fait, on ajoute un S ou un Z, S après le T et un Z après le D. Mm-hmm. C'est fréquent qu'on entend ça, en fait. On pourra se demander ce qu'un linguiste de la Sorbonne fait attendre l'oreille au T et au D d'un présentateur québécois. Il se trouve que le professeur Chalier étudie depuis plusieurs années les accents et les normes du français à travers le monde francophone, notamment, mais pas uniquement, au Québec. L'évolution du parler de Bernard Dorum lui a paru emblématique d'un phénomène qu'il observe aussi ailleurs: la montée en légitimité de variétés locales face à la norme parisienne. Pour mesurer l'évolution de cette prononciation à travers les décennies, le professeur Chalier a analysé plusieurs heures d'extraits de journaux télévisés de Radio-Canada diffusés entre 1970 et 2008. C'est pas banal quand même, hein, comme durée.
Alors, faut être vraiment passionné.
Oui, c'est ça. C'est très précis, vous allez voir, Hélène, dans lesquels Bernard Dorum prend la parole. Ce faisant, il a écouté et analysé acoustiquement, puis codé plus de 1300 cas de T et D dans tous les contextes d'affrication possibles. On se rappelle, hein, l'affrication, c'est le T puis le D. Résultat, la proportion d'affrication chez Bernard Dorum passe de près de 45% en 1970 à plus de 80% en 2008. Autrement dit, le présentateur adopte progressivement une prononciation de plus en plus proche du parler québécois courant, du moins pour ce qui est des T et des D. Au premier abord, cette évolution peut sembler anodine, mais elle est au contraire très révélatrice. C'est selon notre professeur Chalier, bien sûr. Elle reflète non pas seulement un changement personnel, mais surtout une transformation de la norme de prononciation imposée à l'écran. Dans les années 60 et 70, Radio-Canada prônait encore un modèle français dit « international ». On parlait à Radio-Canada, comme on se disait
tantôt,
c'est ça, qui était en fait largement inspiré de la norme parisienne de l'époque et que l'on associait souvent à ce que l'on pouvait entendre dans les émissions de radio et de télévision françaises. En 1965, l'Office québécois de la langue française, dans son premier cahier sur la norme du français écrit et parlé au Québec, mentionnait même explicitement les affrications et affirmait que trop nombreux sont les sons que nous, les Québécois, réalisons de façon défectueuse. On était défectueux, Hélène.
Fallait nous réparer.
Oui, c'est ça, on va aller au garage. Mais le Québec des décennies suivantes a changé. À mesure que la société s'affirmait politiquement et culturellement dans la foulée de la Révolution tranquille des années 1960, ben les médias ont progressivement relâché leur écart par rapport au parler local. À la fin des années 1980, des linguistes notaient déjà l'émergence d'un modèle québécois de prononciation plus naturel et plus représentatif du public. Les journalistes eux-mêmes, désormais tous largement formés comme des reporters, journalistes et présentateurs, et non plus comme de simples lecteurs de nouvelles, privilégiaient une prononciation plus proche de l'usage courant du français québécois. Dans ce contexte, l'évolution du parler de Bernard de Rome devient donc presque emblématique. Son affrication croissante illustre la québécisation progressive de la parole médiatique. Le passage d'un parler standardisé à un usage plus proche de celui du français québécois parlé au quotidien ne concerne pas seulement la phonétique, c'est tout un style de présentation télévisuelle qui s'est transformé. Autrefois, certains lecteurs de nouvelles pouvaient se contenter de lire des textes écrits, souvent rédigés par d'autres, dans un français soutenu et dépourvu d'émotion. Les linguistes appellent cela de l'écrit oralisé. Aujourd'hui, les journalistes s'expriment davantage en direct avec une part d'improvisation et une recherche de proximité. Le discours se fait de moins en moins normatif et laisse une plus large marge à l'expressivité et à la spontanéité du journaliste. Cette oralité mise en scène a ouvert la porte à des formes de langage plus authentiques, plus proches de la réalité langagière quotidienne des Québécois, et l'affrication, longtemps jugée trop populaire pour la télévision, a pu s'y installer sans choquer. Mais ce glissement vers un parler plus local ne signifie pas l'abandon de toute norme. Au contraire, une étude récente montre que Radio-Canada reste un modèle majeur en termes de bon usage du français pour une majorité des Québécois. La norme que la chaîne diffuse s'est simplement redéfinie. Oh mon Dieu, vous vous rappelez du bon usage, la grammaire de Grévis, Hélène? Ça, c'était volumineux, hein? Oui, 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 oui. Cette réévaluation du bon usage n'est pas unique au Québec. Dans plusieurs régions du monde francophone, des variétés autrefois perçues comme périphériques, comme celle de la France méridionale, de la Belgique ou encore des Antilles, acquièrent à leur tour une nouvelle légitimité. Le prestige linguistique se décentre peu à peu de Paris pour mieux refléter la pluralité du français. L'étude du parler de Bernard de Rome montre aussi que ce changement s'est fait sans rupture brutale. Bernard de Rome n'a pas pris l'accent québécois à l'antenne du jour au lendemain. Sa manière personnelle de parler, ce qu'on appelle son idiolecte, a évolué lentement à mesure que les usages médiatiques et les attentes du public se transformaient. Cette observation dépasse le cas d'un seul présentateur. Elle illustre le phénomène bien connu du changement linguistique. La langue d'un individu n'est jamais figée, même à l'âge adulte. Elle peut certes en partie se calquer sur des modèles de prestige, mais elle s'adapte surtout en permanence aux usages courants de son milieu et de son époque. Mais encore faut-il bien la préserver, cette langue, pour qu'elle survive, n'est-ce pas?
On va écouter Bernard de Rome dans les années 70, fin 70, puis ensuite en 2008 lors de son dernier bulletin. Et vous allez certainement entendre une différence dans le timbre de voix, mais aussi dans sa façon de parler et non de perler.
Bon, alors bonsoir. L'affaire des faits en soif est terminée. Le juge Gabriel Vallée de la Cour supérieure du Québec a levé de façon définitive tous les obstacles à la diffusion du texte et de la pièce de Denise Boucher. Paul Toutain analyse le jugement.
Ce dernier téléjournal, je le signe avec sérénité, avec reconnaissance. Reconnaissance d'abord envers vous pour toutes ces années où vous m'avez permis d'entrer chez vous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, que nous avons voulu honorer en retour par le souci de présenter une information qui soit respectueuse de votre intelligence, une information qui a un sens. Et pour moi, comme pour beaucoup d'autres, Radio-Canada est et reste la référence en information. Merci à tous mes collègues, à chacun d'entre vous, parce que le téléjournal est une équipe. Un gros, gros merci à mes amis techniciens que je salue ce soir comme après chaque émission. Merci à mes enfants qui ont su comprendre que le métier de leur père pouvait parfois aussi être exigeant. Quant à ce pincement au cœur, le temps saura bien l'adoucir. Et enfin, pour toi, Céline.
Une rose.
Bonsoir.
Qui lui offrait.
Et merci.
Alors, on n'a pas vraiment perçu de si ou de dix.
Ben un petit peu, Hélène. Mais moi, j'ai trouvé que c'était dans la tension de la voix.
Oui.
C'était beaucoup plus tendu dans le premier extrait que vous avez présenté et que dans le deuxième où il était visiblement... ce ton de voix était moins tendu, en fait.
Plus à l'aise. C'est le métier qui est rentré, j'imagine.
Ou peut-être ai-je une oreille... peut-être un peu particulière, je ne sais pas.
Une oreille qui a un biais?
peut-être, oui.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a une différence.
J'essayais de justifier mon article.
Oui. Oui, tout à fait. Mais il y a une différence assurément dans la voix, le oui. timbre de voix qui oui. A pris de la maturité avec le temps, mais toujours cette très, très belle voix. Merci, Monique.
Tu fais comment pour voir au travers les hommes qui passent, se dévoilent involontairement, se cassent, les vagues de chavir à l'intérieur se brisent au fond de ton cœur.
Paradis, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
Alors, on y va avec Monique. Yvan n'est pas là, vous vous en êtes rendu compte certainement. Il sera de retour la semaine prochaine. Alors, s'il est à l'écoute, on le salue. Monique, vous nous invitez à une conférence panel à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, dont on a souligné, finalement, cette journée hier. Mais la conférence a lieu le 8 décembre.
Exactement. La conférence s'intitule « Le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». C'est présenté par l'École de santé publique de l'Université de Montréal en collaboration avec Humanité et Inclusion Canada. Oui, ça a lieu le lundi 8 décembre à 17h. C'est en présence, c'est à l'Agora de l'Espoum et c'est au 7101 avenue du Parc, au troisième étage. Il faut souligner que, bien sûr, les espaces sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On a des invités de marque, Yolanda Munoz, membre du Conseil d'administration d'Humanité et Inclusion Canada, Natalina Martiniello, professeure adjointe en réadaptation visuelle à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, Paul-Claude Bérubé, qui est directeur général de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, qui est avocat, et elle se sera animée par Muriel Maxeing, qui est professeure adjointe et ambassadrice équité, diversité et inclusion de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Donc, vous pouvez certainement faire leadership des personnes, arriver sur le site et remplir le formulaire pour participer à cette activité.
Donc, qui aura lieu le 8 décembre. Rappelez-nous l'heure.
À 17h, Hélène.
Et à quelle heure les étudiants sont-ils meilleurs?
Ah ben là, à quelle heure pensez-vous, Hélène?
Moi, je dirais le matin, autour de, je sais pas, 8h, 9h?
Non, ah ben pas tout à fait, Hélène. Non? Ce serait entre 11h et 13h.
Ah, à l'heure du lunch.
À l'heure du lunch, que leurs chances de réussir un examen sont les meilleures. Et c'est avant 10 heures et après 15 heures qu'elles sont moins bonnes. Étonnamment, l'influence de l'heure sur les performances scolaires n'avait jamais été étudiée, alors qu'on a déjà montré qu'elle agit, par exemple, sur les jugements des tribunaux. Le cadre choisi pour cette étude est d'ailleurs assez similaire au contexte tendu d'une salle d'audience. Les chercheurs ont passé au crible les oraux de 10 à 30 minutes qu'affrontent les étudiants italiens, bien d'autres, mais là, ils se sont concentrés, ça devait être des chercheurs italiens, une grosse base de données de 104 553 examens portant sur 1243 cours menés par 680 professeurs. On peut dire que l'échantillonnage est tout à fait adéquat.
Absolument.
Résultat, l'effet de l'heure est très net. Et cela, quelle que soit la difficulté de la matière, les chances de réussite sont de 72% à midi contre 57% en moyenne. Les performances cognitives suivent la même courbe en cloche, avec un pic à midi, notent les auteurs. Alors, peut-être qu'avoir faim nous rendrait plus éveillés et facilite notre réussite aux examens.
Mais c'est quand même bizarre, hein? Quand on a faim, on pense juste à manger, pas à étudier.
Oui, mais là, c'est pas étudier. C'est terminer l'examen le mieux possible et le plus rapidement possible, peut-être.
Bien, étudier ou terminer. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on est bien concentré? Est-ce que toutes les chances sont de notre côté pour avoir un bon pourcentage? Il semble que oui, mais c'est étonnant
oui.
Quand même.
En fait, c'est sûr qu'après le lunch, c'est moins bon, Hélène, parce que notre estomac travaille très fort et notre concentration est peut-être moins bonne. On a peut-être plus envie de faire une sieste que de passer un examen.
C'est pour ça que je pensais 8-9 heures après le petit-déj, un café,
mais
c'est pas le cas.
Ça peut dépendre aussi de chaque personne, il va sans dire. Et peut-être que les jeunes adolescents, le matin, ils sont moins bons parce qu'ils sont vraiment endormis, surtout les garçons. Hein, ils ont de la difficulté à se lever tôt.
Oui,
et à être performante.
Je me souviens quand j'étais à l'université, je me couchais très, très tard parce que souvent je faisais mes travaux à la dernière minute. Alors, le café jusqu'à 2-3 heures du matin, puis j'allais porter mon, mon travail sous la porte.
Ah oui.
Oui.
Moi, ça m'arrivait aussi, ça, mais j'avais une autre stratégie. Je me couchais très tôt et je me levais en plein milieu de la nuit.
Ok. Chacun a ses stratégies. Alors, voilà. Monique, allons-y avec les mots de l'année 2025.
Ah oui, c'est très amusant. Les années antérieures, je vous parlais des résultats de l'Office québécois de la langue française par le biais de la vitrine linguistique. Mais là, j'ai découvert dans la presse, on nous annonçait quel était le mot de l'année du dictionnaire des presses universitaires d'Oxford. Alors, leur mot cette année, c'est « rage bait », que l'on peut traduire par « appât ». À rage. Et ça décrit les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui visent à provoquer la colère des utilisateurs afin de générer du trafic, je dirais de la circulation. Le terme a été sélectionné après un vote du public impliquant 30 000 personnes. Donc, ça doit être très utilisé. Il y a aussi le dictionnaire en ligne de l'Université de Cambridge qui a choisi parasocial comme mot de l'année.
Uh-huh.
Alors, c'est une relation à sens unique, Hélène, dans laquelle une personne se sent proche d'une célébrité, d'un personnage de fiction ou d'une intelligence artificielle. Bon, je ne sais pas si vous l'avez entendu beaucoup, moi pas, mais...
Moi jamais.
Alors, mais ce semble être un mot très...
Un mot de 2025, parasocial.
Ouais. Oui. Du côté de la vitrine linguistique, ben, ils nous en proposent 12. Mais j'en ai retenu deux. Entre autres, vous l'avez évoqué dans les nouvelles que vous avez mis de l'avant ce matin, sécurité alimentaire.
Mm-hmm.
Et il y en a un autre, bon, on sait qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas besoin d'expliquer, n'est-ce pas? Et il y en a un autre, c'est Voxto.
Ah!
Ça vous dit quelque chose?
Ben, ça a rapport avec texto, vox pop.
Ça a rapport avec les textos, oui. C'est un enregistrement vocal, généralement d'une durée limitée, que l'on peut envoyer ou recevoir au moyen d'un appareil mobile ou d'un ordi.
Pratiquez-vous le voxto?
Non.
Non.
Vous?
Très rarement. Je préfère écrire. Mais je fais de la radio tous les jours, là, ou presque.
Oui.
Mais non. Vous, Mathieu?
Moi, beaucoup.
Oui. C'est vrai, vous m'en avez déjà envoyé.
D'ailleurs, je m'amuse à laisser les messages les plus longs possibles.
Ben, c'est ça que les gens n'aiment pas, justement, Mathieu. Ça a été fait à partir de Vox et de texto. Donc, mais bon, l'usage est très variable, hein, d'un individu à l'autre, je pense, Hélène.
Mais moi, quand je vois que les messages durent 6, 7, 8 minutes, je les écoute pas nécessairement tout de suite. C'est parce qu'on n'a pas toujours le temps, là, 6, 7, 8 minutes.
Le truc, c'est de donner les informations pertinentes au début. Après ça, on s'amuse, on fait de l'hygiène mentale.
Oui, ça peut être sympathique.
Oui. Parmi les 12 mots, Hélène, il y avait aussi terre rare, il y avait
quoi?
Valeur refuge.
Terre rare?
Terre rare, oui.
Oui, c'est vrai.
Dans tous ces métaux que l'on cherche à vendre et à trouver dans nos sous-sols, il y avait aussi droit de douane.
Valeur refuge, oui.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire quoi, valeur refuge?
je
m'excuse, on a de la misère à communiquer. Valeur refuge, ça veut dire quoi?
Valeur refuge, je pense que c'est en lien avec la finance. Si on achète tel type, par exemple, l'or peut être une valeur refuge.
D'accord. Et puis l'autre mot, fantôme?
J'ai dit réservation fantôme.
Ah oui.
Les gens qui ne se présentent pas au restaurant, par exemple.
Oui, on parle de no-show.
Oui,
mais réservation fantôme, c'est bien.
Ah, c'est joli quand même.
Oui,
hein?
Oui.
Il y en a un autre qui est amusant, Hélène, c'est « faux revoir », F-A-U-R-E-V-O-I-R.
Ah oui, parce qu'on n'est pas capable de se dire bonjour. On finit pas. Salut, là! On sort à l'extérieur.
Puis on continue.
Oui.
Alors, pour terminer, hier matin, Pénélope a réuni trois personnes, journalistes, il y avait une comédienne aussi, qui ont énuméré trois mots.
Oui, en 30 secondes.
Très important. Celui qui a été retenu, qui a fait l'unanimité après un vote, ça a été chaos, qui conduit à la recherche de solutions et qui rejoint toutes les sphères de la société, qui englobe toutes les réalités désastreuses comme l'antisocial, l'isolement, solo et le ChatGPT.
Oui.
Voilà.
Chaos, c'est vraiment bon pour 2025. Merci Monique, un vrai revoir pour vous. À bientôt.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
On s'en va joindre Dominique Tremblay pour sa chronique Parasport. Beaucoup de pain sur votre planche aujourd'hui, Dominique. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Oui, il y a plein d'affaires, puis pas nécessairement des résultats de compétition, là, vu que, bon, on est rendu au mois de décembre, les fêtes arrivent dans pas grand temps. Puis plusieurs des athlètes qui sont déjà en congé et vont reprendre les activités en janvier, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui se sont déroulées au cours des derniers jours, des dernières quelques semaines.
Oui. Alors, je le disais tantôt, c'était hier la Journée internationale des personnes handicapées. Est-ce que le sport joue un rôle important?
Évidemment que le sport joue un rôle très important. Ça permet, premièrement, aux athlètes avec un handicap, quel qu'il soit, de se dépasser, et de réussir des choses qui pensaient peut-être plus jeunes pas être capables, mais ça aussi pour les spectateurs, ceux qui regardent les résultats à la télévision, ça montre qu'il y a des personnes handicapées. C'est pas juste une personne qui se déplace en fauteuil roulant ou qu'une personne qui marche avec une canne blanche, mais ils sont capables de courir, de sauter, de jouer au basketball, de jouer au goalball, de jouer au boccia. Ils sont capables d'être les meilleurs athlètes au monde. Une autre chose intéressante aussi, bon, le comité paralympique, ça couvre évidemment des pays, évidemment en Occident, où déjà un peu, les personnes handicapées seront peut-être un certain avantage comme par rapport aux personnes handicapées dans d'autres continents, comme l'Afrique ou l'Asie. Et je voulais vous parler d'une athlète d'Afrique. Son nom, c'est Anna Mengo Maji, du Kenya, qui a participé à deux Jeux paralympiques. Et sa participation aux Jeux paralympiques a changé complètement sa vie, pas juste à elle, mais aussi à sa famille. Elle avait une déficience visuelle et elle vivait avec sa mère et ses sept autres frères et sœurs dans une pièce, dans une maison à une seule pièce.
Oh,
c'était
oh,
pas
oh,
évident. Et non. Lors des Jeux paralympiques de Pékin, elle a terminé en 12e place en athlétisme dans une course. Elle aimait beaucoup courir. Donc, ça lui a permis de rencontrer le président du Kenya et aussi de recevoir une subvention qui lui a permis de construire une maison en pierre pour sa famille. Donc, ça a changé complètement. Elle était vraiment dans une situation de pauvreté puis difficile avant sa participation. Et maintenant, elle est reconnue et le comité paralympique aussi aide des leaders comme la jeune femme dont j'ai parlé, en leur donnant des cours et des choses pour développer leur leadership, des choses pour parler, être capable de parler en groupe et changer les sociétés alentour d'eux. Donc, c'est très bien ce que le Comité paralympique international fait.
On est bien d'accord. À moins de 100 jours des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, le Comité paralympique canadien lance une campagne publicitaire?
Oui, c'est ça, avec conjointement avec la Radio-Canada et CBC. La campagne conjointe s'appelle « Où tout commence ». La campagne célèbre le parcours de l'athlète où le succès ne commence pas juste au moment sous les feux des projecteurs des Jeux paralympiques, mais commence plus tôt, où tout ça rend hommage au parcours ainsi qu'au comité de la communauté locale, les entraîneurs, les coéquipiers, les amis, la famille. Puis ça constitue tout un système de soutien essentiel qui permet aux athlètes plus tard d'atteindre des objectifs sur la scène mondiale. Je vais vous faire entendre la trame sonore de la publicité dont la narration est faite par Chantal Petitclerc.
Les grandes histoires ne commencent pas sous les projecteurs. Elles commencent dans l'eau glacée à l'aube. Dans les sentiers après l'école. Dans un sous-sol où les rêves résonnent entre les murs. À Campbell River. St. John's. Kanawake. Gatineau. Là où un seul mot allume la flamme et où un effort de plus peut tout changer. Là où chaque goutte de sueur nous rapproche du but. Où l'amour devient légende. Et où le travail acharné est récompensé. Et quand les caméras tournent et que le monde se soulève, on se rappelle où tout a commencé.
Alors, je trouve cette publicité super intéressante et motivante. Ce que je trouve souvent pour les athlètes olympiques et encore plus pour les athlètes paralympiques, c'est qu'on voit les athlètes performer à tous les 4 ans seulement, mais c'est pas juste ça, la vie d'athlète. On voit, puis dans la publicité, on voit plusieurs athlètes paras faire leur sport, mais aussi faire des activités comme du vélo de montagne ou encore de l'escalade, des promenades en forêt, nager aussi dans la piscine, dans les lacs. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, la campagne Où tout commence mise aussi sur le succès précédent des Jeux paralympiques de Paris en 2024 pour avoir des auditeurs qui vont regarder les compétitions à la télé. À Paris, il y avait plus de 11 millions de Canadiens et Canadiennes qui ont suivi les Jeux sur CBC et Radio-Canada. Les Canadiens ont passé plus de 1,2 million d'heures chaque jour à regarder le contenu diffusé. C'est une augmentation de 119% par rapport à Tokyo 2020. Et consommer un nombre record de 614 000 heures de contenu numérique. C'est sûr que là, bon, les Jeux paralympiques de Cortina et Milan, pardon, c'est des Jeux d'hiver. Il y a un peu moins de compétition, donc beaucoup moins d'heures de diffusion disponibles, mais on espère qu'il va y avoir quand même beaucoup de spectateurs. Un athlète du Québec qui a participé à la campagne de publicité, Alexis Dumont, était très content. Ça fait un véritable honneur de participer à cette campagne-là et de représenter son équipe de ski alpin. Ça ouvre aussi une excellente occasion de présenter des histoires en tant qu'athlète, mais ainsi que tout le travail qu'ils accomplissent et de pouvoir concourir sur la scène internationale. Et parallèlement à ça, il va y avoir une campagne de financement qui va être lancé par la Fondation paralympique canadienne. Donc, c'est plein de choses qui vont se dérouler jusqu'au mois de mars pour le lancement des Jeux paralympiques.
Bravo au concepteur de cette belle campagne publicitaire.
Oui.
Altergo, maintenant, Dominique, l'organisme qui organise le défi sportif, remet ses prix annuels.
Oui, c'est ça. Ils ont tenu leur 51e Assemblée générale la semaine dernière. Donc, ils ont conclu leur 50e anniversaire lors de cette Assemblée générale. Ils ont remis beaucoup de prix, soit en loisirs et en sport. Et je voudrais souligner que la joueuse de boccia, Alison Levine, a remporté le prix de l'athlète et de l'implication communautaire Maxime Gagnon, pour son implication en tant que mentor et aider les athlètes à s'améliorer et s'illustrer sur la scène internationale.
Et on termine avec 3 athlètes québécois qui sont nommés sur l'équipe canadienne de paratennis de table.
Oui, c'est ça. Donc, à la fin du mois de novembre, l'équipe tennis de table de Canada, pardon, a nommé son équipe parent canadienne pour l'année prochaine. Il y a 3 Québécois, dont Adric Vincent, qui en est un de ceux-là. Donc, vous allez féliciter beaucoup, beaucoup de monde sur l'équipe nationale de paratennis. Je trouve ça intéressant parce que au niveau des Jeux paralympiques, il n'y a jamais eu beaucoup de Canadiens qui ont participé aux compétitions de tennis de table. Alors, en ayant cette profondeur-là, peut-être qu'on aura plusieurs athlètes qui vont participer en tennis de table aux Jeux paralympiques de Los Angeles d'été, dont les trois Québécois, et peut-être que M. Adrake Vincent en fera partie.
À suivre, donc. Merci beaucoup, Dominique. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Que battent les bras des anges dans la neige et que montent les rires aux éclats devant le résultat. Que coulent les jours de plus en plus courts où tombent les confettis sur nos cheveux d'ange cornu, d'ange déchu, d'ange de neige, neige. Car les saisons sont comme ces oiseaux qui s'envolent, volent, 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 mais reviendront bientôt. Que brillent les diamants sur la route vierge, que la forêt feigne le trépas qui nous glace le dos.
Ange de neige, une chanson de Maryse Letarte.
Aujourd'hui, pour votre dernière chronique, M. Larochelle, qui est
de
en face de moi.
De l'année.
Oui, oui, oui. Faites bien de le dire. J'allais dire de 2025, voilà. Mais vous avez été plus rapide que moi. François Larochelle, qui est ancien diplomate canadien, qui est avec nous. Je suis bien contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, donc, vous allez nous servir. Vous allez faire une sorte de bilan des 12 derniers mois sur la scène internationale. Les mois qui ont été marqués par des bouleversements géopolitiques importants, des incertitudes un petit peu partout sur la planète et l'arrivée du président Donald Trump y a beaucoup contribué.
Effectivement, parce que quand on analyse ce qui s'est déroulé au niveau international en 2025, on peut franchement parler d'une année chaotique. Ce résultat a largement découlé du retour, effectivement, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ses humeurs et politiques changeantes et clivantes ont affecté de nombreuses dynamiques internationales. En premier lieu, il a utilisé le chantage aux tarifs pour exercer des pressions sur la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis. L'arrivée de Donald Trump a aussi eu un impact négatif sur les alliances traditionnelles, notamment l'OTAN. Nos voisins du Sud se sont aussi retirés de certaines organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé ou l'UNESCO, mais aussi de l'accord de Paris sur l'environnement. Cela là, rend la gouvernance mondiale plus complexe, plus compliquée, car les institutions internationales comme l'ONU sont sapées par les États-Unis et d'autres pays comme Israël ou la Russie. Le monde actuel tend désormais vers un ordre multipolaire avec plusieurs centres de pouvoir en dehors des États-Unis. Il y a la Chine, l'Inde, la Russie. Ce qu'on appelle le Sud global prend de plus en plus de place, avec évidemment la Chine, une puissance commerciale, mais de plus en plus politique et militaire. Elle a d'ailleurs beaucoup renforcé son influence, profitant du désengagement politique américain et de son incohérence économique et de politique étrangère.
Les points de tension majeurs ont été et sont encore les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Ils sont sans résolution claire.
Oui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie se poursuit depuis près de 4 ans avec des modalités de fin incertaines, même si des négociations se déroulent actuellement. L'Ukraine est affaiblie, mais décidée de ne pas céder. La Russie se sent à tort ou à raison en position de force sur le terrain militaire et Trump, lui, bien sûr, il rêve à son prix Nobel. Ce conflit, donc, semble parti pour durer. En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, ben, elle reste de son côté très instable. Le conflit entre Israël et le Hamas a atteint des niveaux de destruction et de perte de vie palestinienne insupportables. Plus de 70 000 morts depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque là, du Hamas. On a parlé d'actions génocidaires israéliennes. Finalement, le 10 octobre dernier, un cessez-le-feu a été mis en place dans le contexte du plan Trump pour la paix au Moyen-Orient. Il a ainsi permis la libération des otages israéliens vivants et une reprise vivants et décédés et une reprise limitée de l'aide humanitaire pour les Palestiniens. Mais le cessez-le-feu est régulièrement rompu par Israël. Les prochaines étapes pour un règlement de paix sont complexes et semées d'obstacles. Il faudra que la pression et l'engagement international se maintiennent pour que la route vers la paix se concrétise. En parallèle, Israël attaque le Hezbollah au Liban, d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui, et des cibles en Syrie. Il y a eu en 2025 les bombardements israélo-américains sur des sites nucléaires en Iran, mais on ne sait pas trop s'ils ont réellement été complètement détruits, ces sites nucléaires. L'Iran est sorti affaibli de cet épisode, mais le régime des Mollahs est toujours en place. Ces conflits, comme on le sait, ont mené à un nombre scandaleux de violations des droits de la personne, du droit international humanitaire et de ses institutions.
Malheureusement, il y a de nombreuses autres zones de conflits.
Oui, il y a la guerre civile au Soudan qui se poursuit. On parle là aussi d'ailleurs de génocide. Elle aggrave l'instabilité régionale, notamment par l'arrivée de flots de réfugiés dans les pays frontières. Il y a eu une courte guerre entre l'Inde et le Pakistan, ainsi qu'entre la Thaïlande et le Cambodge. Bonne nouvelle, cependant, un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été signé en août 2025, et c'est une initiative du président Trump, évidemment, selon lui. Il y a maintenant une soi-disant guerre contre les cartels de drogue dans les Caraïbes, menée illégalement par les États-Unis. L'administration américaine semble vouloir renverser le régime Maduro au Venezuela. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur les véritables objectifs de la Maison-Blanche dans ce dossier plutôt étrange.
Oui. On assiste à une division entre les nations, une division croissante entre les nations avec une montée de l'autoritarisme et une menace accrue pour les démocraties.
Bien, on le voit d'abord, bien sûr, aux États-Unis. Trump s'accapare de plus en plus de pouvoir et se place au-dessus des institutions censées lui faire contrepoids, le Congrès et le système judiciaire. On assiste aussi à une érosion de l'État de droit et des libertés civiques dans de nombreux autres pays, et ce qui entraîne parfois des troubles sociaux et une défiance envers les institutions, notamment chez les jeunes de ce qu'on appelle la génération Z. On l'a vu récemment à Madagascar et au Maroc, et aux Philippines aussi, je pense. La polarisation des opinions dans nos démocraties, encouragée par des dirigeants politiques et les réseaux sociaux, en arrive à limiter la capacité des gouvernements à agir de façon cohérente sur la scène mondiale. Les reculs sur l'environnement de nombreux pays ou les politiques anti-immigration le démontrent. Pourtant, le réchauffement climatique se poursuit, sinon s'accélère, et a entraîné une augmentation, comme on l'a vu, des catastrophes naturelles partout sur la planète, avec des impacts notamment sur les flux migratoires.
Mais il y a d'autres enjeux en 2025 qui ont eu et qui vont avoir une influence sur notre futur, notre avenir.
Absolument. Il y a le contrôle des technologies stratégiques et l'intelligence artificielle qui sont devenues des questions géopolitiques majeures. On voit d'ailleurs une compétition effrénée pour les ressources critiques et les métaux rares qui sont actuellement largement contrôlés par la Chine. Suite aux politiques commerciales de Trump, il y a aussi une réorganisation des échanges commerciaux avec des conséquences géopolitiques. Le Canada, d'ailleurs, est un excellent exemple. Le gouvernement Carney veut que notre économie dépende moins des États-Unis et travaille à améliorer ses relations avec l'Europe, mais aussi avec la Chine et l'Inde, deux pays avec lesquels le Canada était en froid sous l'ère Trudeau.
Alors, si je vous suis bien, 2025 a été une année de transition vers un monde de plus en plus instable.
Malheureusement, parce que il y a un retour de la compétition entre les grandes puissances et les institutions internationales ont perdu des plumes. Il faut s'attendre à ce que cette tendance se poursuive. Bien sûr, il est difficile de prévoir où cela va nous mener, mais c'est clair qu'une nouvelle époque semble se dessiner. L'histoire nous apprend que régulièrement l'humanité arrive à un moment charnière. Je pense que nous y sommes à nouveau. Il ne faut malheureusement pas trop compter sur nos leaders politiques actuels pour nous guider. Ils sont trop intéressés à protéger leur autocratie, à gagner des élections ou à se remplir les poches.
Ou à rêver à un prix Nobel.
Ou rêver à un prix Nobel, effectivement. J'espère qu'il ne l'aura pas d'ailleurs. Ce sont les populations, je pense, qui devront faire bouger les choses dans le bon sens. Et particulièrement la jeunesse, qui s'inquiète de son avenir, et c'est cette jeunesse qui portera, je l'espère, les espoirs d'un monde meilleur. Sur ce, ben peut-être je suis un peu tôt, mais joyeux Noël et bonne année.
Bon, on vous retourne ses bons vœux et puis il faut continuer d'espérer.
Voilà.
Joyeux Noël et bonne année, Monsieur La Rochelle.
Merci vous aussi.
On se retrouve en janvier 2026.
Voilà. Au revoir. Thank you.
envoûtante d'Hermanos Gutiérrez, le duo qui sera en concert, bonne nouvelle, les 6 et 7 mai 2026 à la Maison Symphonique et les billets seront en vente à compter de midi aujourd'hui. Donc, ça s'en vient dans une heure et quelques minutes. On pourra se procurer, si vous aimez cette formation, là, je pense que ça vaut la peine. Aussi, autre suggestion, pas pour le mois de mai, mais pour tout de suite, le Théâtre aux Écuries, le Théâtre INK, présente jusqu'au 6 décembre la création « Dehors ». C'est une création mise en scène, écrite, interprétée par Marilyn Perrault dans le rôle d'une femme qui parle sans pouvoir s'arrêter. Elle raconte trois ruptures amoureuses qu'elle a vécues au cours de sa vie. Et la pièce, la création, pose la question suivante. Y a-t-il quelque chose de plus incertain que d'être avec quelqu'un? Alors, c'est présenté au Théâtre aux Écuries, 72 85 rue Chabot à Montréal. C'est jusqu'au 6 décembre. Et pour vous procurer des billets, je peux vous donner un numéro de téléphone 514-844-1811, poste 401. 514-844-1811. Autre suggestion pour celles et ceux qui souhaitent célébrer la saison des fêtes autrement, Tchaïkovski et Saint-Saëns, Magie à deux pianos. C'est le 4 décembre, donc aujourd'hui même, au Palais Montcalm. Et le 6 décembre, à la Maison Symphonique, un concert qui réunit deux pianistes d'exception, Seriy Salov et Jean-Philippe Sylvestre. Le premier est ukrainien, puis l'autre est un Québécois. Et c'est un rendez-vous où virtuosité, complicité et poésie sonore se rencontrent. On entendra donc, comme je vous le disais, du Saint-Saëns. Le programme s'ouvre avec deux pages incontournables de Saint-Saëns. La danse macabre, rarement entendue dans cette version. Et puis, carnaval, le carnaval des animaux. Ensuite, la soirée va se poursuivre avec la suite numéro 2, opus 17 de Serge Rachmaninoff, page monumentale du répertoire pour deux pianos. Et enfin, place à l'incontournable Casse-noisette de Tchaïkovski. Certainement un bon moment à passer en compagnie de deux pianistes et deux compositeurs extraordinaires. 4 décembre, je vous le rappelle, 19h30 au Palais Montcalm et 6 décembre à 19h30 aussi à la Maison Symphonique de Montréal. Chili Gonzalez, beau choix, Mathieu. Mathieu Tessier, merci pour tout. On va se retrouver mardi prochain. Lundi, c'est Denis Martin Chabot qui vous accompagnera avec beaucoup de bonnes entrevues à venir. Et moi, je vous retrouve mardi prochain. Je vous souhaite du bon temps, du beau temps également. Et je vous rappelle qu'il va faire froid, pour ne pas dire frette. Et c'est la guignolée des médias. Soyez généreux si vous le pouvez. À bientôt.